franceinter.fr.
Notre quotidien est désormais jalonné de scandales sanitaires, alimentaires, voire même nucléaires. D'où l'apparition de ces lanceurs d'alerte qui ont su attirer notre attention sur des mots que nous ne connaissions pas encore. Des mots qui nous sont désormais familiers comme amiante, médiator ou PIP. Nous attendons vos appels au 01 45 24 7000 ou bien sur notre site internet franceinter.fr. J'ai découvert l'existence du régime du camp grâce au bras d'une copine. Non, pas parce que son bras avait maigri, mais parce qu'elle portait toute la journée un sac plastique. L'interrogeant sur le contenu de son sac, je me suis entendu répondre qu'il contenait de la dinde, puisque Monsieur Ducamp ne l'autorisait qu'à ingérer de la dinde. Alors bien sûr, si un quelconque pouvoir avait contraint cette jeune femme à n'absorber que de la dinde, elle aurait certainement porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Comment, en plein 21e siècle, alors que j'ai le choix entre 78 chaînes de télé, 78 baskets pour courir et 78 sexualités, ce serait menu unique, dinde, matin, midi et soir. Oui, mais voilà, ici il s'agissait du but ultime, maigrir. Alors depuis quelques jours, notre ami Ducamp est critiqué de toutes parts, non pour son régime, mais pour sa politique. Notre homme a proposé de créer une note de minceur. Cette proposition a déplu à la fois au magazine Elle et au Financial Times. Je suis d'accord avec eux, c'est absurde de donner une mauvaise note aux gros, jeunes ou vieux. C'est déjà le cas. Toute notre culture, que dis-je, notre civilisation du magazine Elle au Financial Times stigmatise les personnes en surpoids. Le gros est l'incarnation du mou, du pauvre, du faible. Demandé à François Hollande, il s'est même dit qu'il ne serait élu qu'à la condition expresse d'en perdre des kilos. Les prophètes finissent toujours exécutés, ce fut le cas de Savonarole, de Robespierre. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à Ducamp, prophète de notre époque, avec sa mince philosophie. Et dans la seconde partie de l'émission, Marie Montuire, notre femme d'intérieur, a une idée pour résoudre la crise immobilière, inciter les gens à occuper moins de place. Rassurez-vous, rien à voir avec le régime Ducamp.
Donc vous demandez un revenu supérieur à 4 fois le montant du loyer, hein, c'est ça? Ouais. Qui est de combien le... 600 euros, d'accord, donc ça fait à peu près 4000 francs, quoi. Plus les charges, ouais. Bien entendu. Tout à fait, hein, c'est raisonnable. Non, c'est un appartement qui fait tout de même 20 mètres carrés, hein. Duchette, ouais, on va pas chipoter. En revanche, est-ce qu'il y a une écurie pour garer les chevaux?
Quant à Hervé Pochon, il est parti dans les grands espaces à la recherche de Giono, mais dans l'immédiat, on part à la rencontre des lanceurs d'alerte.
Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux et des échantillons de sang dans un fichier immobilier?
Ça vous ennuie pas si je creuse un peu la question?
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous obtiendrez toutes les informations comme ça?
Le gros hexavalon? Très très nocif.
Bref, ça tue des gens?
Oh oui.
Vous faites du sentiment. Rappelez-vous que vous n'êtes pas concerné.
On va les faire payer, n'est-ce pas?
Julia Roberts et Erin Brockovich, seul contre tous.
Après Erin Brockovich, lanceuse d'alerte, deuxième version des lanceurs d'alerte.
Bonsoir. En titre, Springfield se retrouve à tout jamais privé de bonbons. En vertu d'un texte baptisé Loi Marge, tout produit sucré est désormais interdit.
Merci beaucoup, Erin Brockovich.
Je voulais seulement que les gens en consomment moins parce que c'est nocif.
Ouais, t'as réussi ton coup, crétine Brockovich.
Service public. Guillaume Erner.
Aux États-Unis, le terme est entré dans le langage courant. On dit whistleblower, ce qui pourrait se traduire par lanceur d'alerte. Et ce droit d'alerter l'opinion publique sur un danger ou un délit est protégé par la loi. En France, les lanceurs d'alerte sont bien souvent assimilés à des délateurs, une situation qui est en train de changer depuis qu'un médecin, le docteur Irène Frachon, avec qui nous serons en ligne tout à l'heure, a fait éclater le scandale du médiator. Et pour évoquer ce thème, j'ai autour de moi trois lanceurs d'alerte. Tout d'abord, Christian Vélo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien à Paris-Sud, membre de la Fondation Sciences Citoyennes, membre également du CRIGEN. À côté de vous se trouve Aurore Laluc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Institut Veblen et enfin, Jean-Paul Bouchet, secrétaire général de la CFDT Cadres, membre du réseau IRESCA, Initiative internationale pour la responsabilité des cadres. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Bouchet. Jean-Paul Bouchet, qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte? Comment pourrait-on définir ce terme?
Ouais, on a une acceptation assez large, c'est-à-dire toute personne qui va finalement signaler, alerter sur une malversation, un délit, un danger. Pour nous, ce n'est pas simplement d'ailleurs l'opinion publique. L'alerte peut être aussi une alerte professionnelle. Donc risque, évidemment, on parle surtout des risques lorsqu'ils touchent une partie impression, donc un risque santé par exemple. Mais moi-même qui étais lanceur d'alerte sur un risque qui était un risque économique, un risque client, c'était tout simplement dans le secteur bancaire, une alerte d'un comité de direction dont j'étais membre. Et sur un risque finalement client, un risque clientèle, un risque social aussi, j'irai pour l'entreprise. Et je me suis retrouvé en minorité. Donc dans ces cas-là, on se retrouve comme la plupart des whistleblowers ou lanceurs d'alerte dans une situation où soit on est démis, soit on est soumis.
Donc, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que c'est évidemment extrêmement compliqué en France. Pas dans les autres pays, parce que la France, malheureusement, a une situation singulière à cet égard. C'est extrêmement difficile d'être un lanceur d'alerte.
Je crois que c'est compliqué dans tous les pays. On a animé beaucoup de sessions autour de ces questions avec des cadres africains autour des problèmes de lutte contre la corruption. Les dispositifs réglementaires ne sont pas bien sûr les mêmes. Mais j'ai envie de dire quand même, en France, on a malgré tout la chance, en tous les cas dans le milieu de l'entreprise, de disposer malgré tout de quelques règles qui permettent effectivement d'encadrer un certain nombre d'alertes qui ne sont pas simplement individuelles, mais qui sont aussi collectives.
Alors Christian Vélo, vous êtes l'incarnation des difficultés qu'on peut avoir dans son existence lorsqu'on est un lanceur d'alerte. Vous êtes généticien, comme je l'ai dit, et vous êtes attaqué à la question des OGM. Qu'est-ce que ça veut dire être lanceur d'alerte sur les OGM, Christian Vélo?
Justement, le lanceur d'alerte, son rôle n'est pas forcément de démontrer, mais donc, comme son nom l'indique, d'alerter. C'est-à-dire qu'au regard des connaissances, je suis moi-même, comme tout généticien, utilisateur de la technologie OGM dans le cadre de mon activité de recherche, parce que c'est avant tout un outil au service du chercheur. Et parce que je fais des OGM toutes les semaines, je sais à quel point cette technologie est aléatoire et à quel point, surtout, l'évaluation dont elle fait l'objet est totalement carencée, est totalement opaque. Et donc, à partir du moment où on prend connaissance, que ce soit à travers son activité professionnelle, à travers son activité associative, à travers son activité de tous les jours de citoyen, d'un risque grave pour la population. On parle souvent de risques sanitaires environnementaux, mais l'émission d'aujourd'hui va nous démontrer que ce n'est pas réservé à ces domaines-là.
Bien sûr.
On décide d'en alerter le plus grand nombre. Et comme ce sont souvent des secteurs qui touchent de nombreux domaines financiers, avec de nombreux intérêts économiques, eh bien on s'expose à des pressions de la part des pouvoirs publics, à des pressions de la part de la hiérarchie.
Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous êtes certain, Christian Vélo, que les OGM sont nocifs pour la santé et pour l'environnement?
Alors justement, c'est tout le problème. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des scientifiques qui affirment, sans sourciller, que les OGM ne causent absolument aucun problème pour la santé. Moi, ce que je dis et ce que nous disons au CRIGEN, le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique dont je suis membre, eh bien, ce que nous disons justement, c'est qu'au regard des études faites aujourd'hui dans le cadre des évaluations officielles, qui sont faites sur des périodes dangereusement courtes, au regard de ces résultats, auxquels on a difficilement accès parce que pour des raisons de protection industrielle, eh bien, on n'a pas les données brutes ne sont pas communiquées, donc il faut y accéder au prix de batailles juridiques et administratives monstrueuses. Eh bien, au regard de ces données, on a toutes les raisons de craindre le pire et donc d'exiger des études beaucoup plus profondes par des laboratoires indépendants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, que ce soit dans le sens de l'innocuité ou dans le sens de la dangerosité. Donc face à ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, il y a des scientifiques dont je fais partie, dont on fait partie au CRIGEN, qui disent nous, aujourd'hui, on ne peut pas affirmer sur la base des seules études qui sont faites dans le cadre des évaluations officielles l'innocuité des OGM et donc arrêtons de prendre les citoyens pour des cobayes.
Et puis alors, troisième illustration de ce que peut être le fait de lancer des alertes, alors vous êtes économiste, on a vu avec Jean-Paul Boucher qu'il y avait évidemment la possibilité de lancer des alertes dans une entreprise quand vous voyez une malversation, mais il y a aussi la possibilité d'en lancer au niveau macroéconomique quand on voit par exemple se profiler une crise.
Oui, on a des fraudes depuis une trentaine d'années. On a des fraudes qui n'ont pas que des conséquences au niveau microéconomique, mais qui ont des conséquences au niveau macroéconomique. C'est ce qui s'est passé durant la crise des caisses d'épargne aux États-Unis déjà à la fin des années 80. C'est une crise qui a coûté 170 milliards de dollars, où il y avait des lanceurs d'alerte qui n'ont pas été écoutés. Il y a eu pareil, un scandale financier, Enron, WorldCom, début des années 2000, qui a donné lieu, pour le coup, à une reconnaissance des conséquences macroéconomiques, des fraudes, justement, comptables et financières. Donc, là, il y a eu une protection, un début de protection des lanceurs d'alerte aux États-Unis dans le domaine bancaire et comptable et financier.
Donc, les fraudes que vous pointez là sont des fraudes qui ont des conséquences systémiques, c'est-à-dire qui infléchissent l'ensemble du système économique, comme par exemple la crise des subprimes, qui partait de crédit immobilier, qui a eu des conséquences mondiales.
Oui, on le sait aujourd'hui, la crise des subprimes, ça a été mis en évidence à travers un nombre incalculable d'auditions qui ont eu lieu au Sénat américain, est une crise qui part donc des États-Unis et de l'industrie des prêts menteurs, donc des prêts qui sont mal documentés, falsifiés, dont les montants sont hypertrophiés et qui sont pourris, sont des prêts pourris. Et ça part de là quand même.
Mais alors aujourd'hui, donnez-nous d'autres exemples de ces alertes que vous auriez envie de formuler sur la situation économique générale, Aurore Laluc.
Bah, déjà, il y a quand même la question de la crise américaine à régler. Il faudrait qu'on ait aussi un débat peut-être en Europe sur le système bancaire, sur ce qui s'est passé, sur la fraude qui a eu lieu aux États-Unis et voir s'il n'y a pas un potentiel danger aussi dans nos institutions financières en Europe. On sait aujourd'hui que les collectivités territoriales sont par exemple complètement bourrées de prêts toxiques, que Dexia était très impliquée, que la Deutsche Bank, d'après certaines études, probablement aussi. Donc, il y a des études à mener aussi en France dans ces domaines-là. Et il y a forcément des gens honnêtes dans tous les secteurs d'activité, notamment dans la banque et la finance. Et donc, il y a potentiellement des lanceurs d'alerte, les gens qui pourraient alerter du fait qu'il y ait quelques problèmes frauduleux au sein d'institutions financières.
Et puis, nous sommes également au téléphone avec Christian Marinetti. Bonjour, Christian Marinetti.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien qualifié en chirurgie plastique à Marseille et vous faites partie des tout premiers individus qui vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème avec les prothèses PIP. Aujourd'hui, ces prothèses sont malheureusement très célèbres. Vous en êtes rendu compte en 2007, c'est ça, Christian Marinetti ?
Oui, bien évidemment. Je ne revendiquerai pas le fait d'être le premier lanceur d'alerte sur le problème PIP. Bien évidemment, certainement d'autres de mes confrères ont dû prévenir, déclarer leurs incidents et en avertir donc l'administration. Mais effectivement, c'est fin 2007 que j'ai vu la première rupture d'une PIP, ce qui en soi n'a rien d'extraordinaire, car la vocation naturelle d'un implant, si on peut le dire, c'est de se rompre au-delà d'un délai raisonnable de 10 années. Il faut bien dire ça aux patientes, un implant n'est jamais mis en place pour la vie, donc sa durée de vie est en moyenne de 10 ans et doit être remplacé au-delà. Donc rien d'extraordinaire de voir une rupture, si ce n'est que c'était une rupture précoce. Avant 10 ans, bien entendu, c'était à 5 ans, je crois, de la pause. Là aussi, rien d'extraordinaire, il nous arrive régulièrement de voir des ruptures précoces dans toutes les marques, quelles qu'elles soient, parce qu'aucun fabricant ne peut garantir à 100% un linéaire de qualité de fabrication, et que de temps en temps, un implant peut échapper effectivement aux mesures de vérification.
Bon, alors, il se trouve que malheureusement, ça n'était pas un cas isolé dans le domaine des prothèses PIP. Vous avez alerté l'AFSAPS alors. Qu'est-ce qui s'est passé, Christian Marinetti ?
J'ai alerté l'AFSAPS naturellement et légalement, puisque chaque fois qu'un dispositif implantable est défectueux, nous devons de remplir un formulaire et de l'adresser à l'AFSAPS. Donc je l'ai fait pour le premier implant rompu, je l'ai fait pour les suivants que j'ai observés en 2008 et ainsi de suite. Et j'ai cru bon, effectivement, pour essayer de clarifier la situation qui me paraissait plus qu'inquiétante, de prendre un contact téléphonique direct avec l'AFSAPS courant 2008 et de confirmer les choses par un mail explicitant ma position, mes inquiétudes, en novembre, je crois, de cette année 2020.
Bah alors, on se rend compte qu'il y a 3 ans qui se sont écoulés entre ce moment où vous avez lancé l'alerte et la prise de conscience des pouvoirs publics. Alors, ça veut dire que ce mécanisme ne fonctionne pas, même si les chiens aboient, comme on l'entend derrière vous.
Absolument, il y a les gardiens. Il est évident que je crois qu'on est dans les trois problèmes évoqués ce matin devant le problème de la réactivité devant l'alerte, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit en matière génétique, économique ou sanitaire. Il est bien évident que avant que des choses s'établissent, il faut un certain temps pour avoir des arguments, détailler des arguments. Ensuite, en face, bien, on avait la SAP. La SAP, c'est un énorme organisme qui n'a pas à gérer que les prothèses mammaires. Il gère les médicaments, on le sait. Il gère tous les produits injectables, tous les produits implantables, les prothèses de hanche, les prothèses d'aorte, etc. Donc, l'implant mammaire n'est qu'un des éléments de sa surveillance. Donc, déjà, c'est une chose. Deuxièmement, il y avait effectivement des ruptures déclarées pour des prothèses depuis longtemps, ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est rien d'extraordinaire. Donc de voir une ou deux, trois, quatre, cinq ruptures déclarées, a priori, ce n'est pas un problème. C'est vrai qu'ils auraient dû, à partir du moment où un spécialiste, un chirurgien qualifié en plastique réparatrice esthétique, prend le soin de perdre du temps à décrocher son téléphone, à prendre son PC pour intervenir directement, C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de réactivité.
Un peu plus de réactivité là-dessus. Jean-Paul Bouchet, je vous vois hocher la tête, même si, évidemment, vous, les alertes que vous avez lancées n'étaient pas dans le domaine de la chirurgie.
Non, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit, effectivement, sur les protespibes, parce que l'article de Libération, effectivement, de samedi, dans lequel, effectivement, l'ancien directeur de recherche et développement de cette entreprise dit à quel moment il a signalé, effectivement, très, très en amont. Il a eu la certitude, à un moment donné, effectivement, que pour 10 euros de moins, finalement, il y avait intérêt à utiliser un gel maison.
C'est sa déclaration. C'est tout à fait stupéfiant, Christian Marinetti. 10 euros, est-ce que c'est ça donc le prix d'une vie humaine pour ce monsieur qui dirigeait la société PIP ?
Alors bon, tout ça est assez stupéfiant et je pense que c'est tellement énorme que c'est pour cela que l'AFSAPS n'a pas réagi tout de suite. Personne ne pouvait imaginer que l'on puisse frelater le produit de base. Et je pense que l'organisme de contrôle, la TUV, qui a sa part de responsabilité bien évidemment dedans, dans cette affaire, également était à 100 lieues de se douter que c'était à l'origine que était la fraude. La TUV était là pour contrôler si tout était en normes, les normes de fabrication, les papiers étaient bien remplis, bien signés, etc. Mais n'aurait peut-être pas imaginé une chose pareille.
Qu'est-ce que c'est la TUV ?
La TUV, c'est l'organisme allemand qu'avait choisi PIP pour se faire contrôler. Parce que dans la réglementation européenne actuelle, ce sont les entreprises de ce type qui choisissent et payent leurs vérificateurs.
D'accord. Christian Vélo, vous êtes généticien, mais évidemment, là, on est dans un domaine que...
Oui, mais cette affaire révèle une chose importante, c'est que l'alerte ne peut pas être découplée de l'expertise. C'est-à-dire, ça, c'est extrêmement important parce que vous parliez tout à l'heure du système de protection aux États-Unis avec le Whistleblower Protection Act ou le système en Angleterre équivalent. C'est très bien. Il y a un système de protection de l'alerte. C'est bien d'empêcher un lanceur d'alerte de subir des pressions, d'être licencié, d'être mis au placard. Mais ça ne suffit pas. Il faut un système de traitement de l'alerte. Et ce système de traitement de l'alerte ne peut pas être découplé du système d'expertise et notamment pour définir clairement une méthodologie qui va permettre de pouvoir établir le caractère plausible ou non de cette alerte.
Merci beaucoup Christian Marinetti de nous avoir éclairé sur la situation avec la prothèse PIP. On aura évidemment l'occasion de suivre cette douloureuse affaire. Part Company Babar. La chanson, j'espère que le CSA ne comptera pas cette chanson comme une prise de position en faveur de François Hollande.
Service public, Guillaume Herner.
I was walking in the street one night, just thinking about the wrong and right.
service public consacré aux lanceurs d'alerte, ceux qui avertissent l'opinion publique, les autorités de risques juridiques ou bien de risques sanitaires. On a parlé des prothèses PIP. Je suis en compagnie du généticien Christian Vélo, de l'économiste Aurore Laluc, de Jean-Paul Boucher, secrétaire général de la CFDT, et notre reporter Dorothée Barba vient de nous rejoindre. Salut Dorothée.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé recueillir le témoignage d'une cadre qui a été renvoyée de son entreprise après avoir dénoncé des activités frauduleuses.
À la suite de ça, elle a même été licenciée et la justice finalement lui a donné raison. Alors elle ne souhaite pas qu'on révèle son nom, appelons-la aujourd'hui Caroline. Vous ne saurez pas non plus le nom de l'entreprise concernée afin de protéger sa vie professionnelle qu'elle est en train doucement de reconstruire. Sachez simplement qu'elle travaillait dans un grand groupe et qu'elle a vécu une longue période de chômage après cette histoire. À sa demande, nous avons aussi modifié sa voix.
C'était pas une période facile, loin de là, même s'il y a eu de très beaux succès. Donc évidemment, ça reste douloureux, c'est une période très éprouvante. À ce moment-là, j'ai pris une certaine autonomie, je me suis affranchi en quelque sorte de ma hiérarchie aussi, et je suis allé contre, donc c'était une prise de risque, mais c'était aussi une façon d'exister par moi-même, et il y a eu un avant et un après. C'est très intense parce qu'en fait, on avance dans un tunnel qui est très sombre. Donc, on a tendance à culpabiliser, à se dire qu'on aurait dû peut-être être encore plus diligent. Ou alors, on n'y croit pas, on dit que ce n'est pas possible. Donc, on se remet en cause, on a tendance à douter.
Oui, vous avez modifié sa voix, effectivement.
Effectivement, pour ne pas qu'on la reconnaisse. Elle a très peur qu'on la reconnaisse si elle en dit trop. Je ne peux donc pas vous dire non plus quelle malversation Caroline a dénoncée dans son entreprise. Elle a la conviction, en tout cas, d'avoir eu un comportement d'utilité publique. Mais ça a été au prix d'une vraie épreuve professionnelle et personnelle. Elle a marqué tout simplement son désaccord à quelque chose d'illégal dans le groupe et on l'a renvoyé. Pour autant, Caroline n'aime pas ce terme de lanceur d'alerte. Ce n'est pas comme cela qu'elle définit le combat qu'elle a mené.
Moi ça me dérange un peu ce terme, parce que le fait de lancer, c'est comme si on ne maîtrisait pas la trajectoire. La dénonciation, comme vous dites, ou en tout cas la remontée d'informations, moi elle s'est faite à l'interne, dans mon entreprise. Elle ne s'est pas faite du tout à l'extérieur, et je n'ai pas engagé de procédure particulière sur la base de ces faits. Hein, c'est resté au niveau d'une équipe, d'un groupe de travail, dans une entreprise. Ça a dégénéré sur le plan, effectivement, et puis ça s'est terminé par un licenciement. Après, évidemment, la procédure de licenciement a pu donner de l'écho au sujet. Mais en fait, sur le plan judiciaire, c'est simplement une procédure de licenciement, c'est très basique. Généralement, on a l'impression d'un côté de découvrir quelque chose, mais en fait, c'est une pratique qui est largement connue de l'autre, donc il n'y a pas du tout de novation. En fait, il ne se passe rien, c'est un non-événement, puisqu'il n'est pas reconnu en face. Donc voilà, mais par contre, c'est une situation qui permet de montrer qu'effectivement, on peut être critique ou pas tout à fait d'accord, et donc à ce moment-là, on devient un élément gênant, qu'il faut éliminer. Dénoncer ça a posteriori, c'est qu'on s'est fait. On peut être aussi courageux en résistant et en n'acceptant pas de rentrer dans certains schémas de fonctionnement. Comment on fait des affaires ? Parce que parfois, on commence sur on a de petites opérations qui ne sont pas forcément bien montées ou qui sont dans les règles de l'art. Bon, c'est une petite opération, c'est pas grave. Puis après, ça se multiplie. Puis après, ça devient une pratique systématique. Après, c'est une pratique incontournable. C'est surtout ça. Alors que si on a quand même un certain niveau de vigilance inscrit dans les opérations au quotidien, je pense qu'on a plus de chances effectivement de pas avoir de gros problèmes à un moment donné où ça devient tellement énorme que c'est plus acceptable. Voilà, quand on a des principes, ça gouverne l'action en amont.
Et pour Caroline, ces principes sont aussi peut-être une question d'éducation avant tout. Alors aujourd'hui, avec le recul, si elle a un conseil à donner à ceux qui voudraient, comme elle, alerter à propos de pratiques condamnables dans l'entreprise, c'est de beaucoup travailler, de préparer un dossier très solide avant de se lancer. Et si c'était à refaire, elle serait encore plus prudente, même si finalement la justice lui a donné raison, considérant que son licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Et ça, c'est très important.
Oui, clairement, c'est une forme de reconnaissance. Et ça, c'est important aussi quand on a une démarche isolée. Donc voilà, mais ça ne fait pas tout. Ça permet simplement d'avoir en fait en miroir en fait le regard de l'autre. Et c'est un des premiers signes en fait qui disent que bah, effectivement l'action était fondée. Et donc surtout, il faut être très prudent, ne pas aller trop vite, bien vérifier ses sources, hein, corroborer, recouper l'information. Et généralement, on n'a qu'une vision partielle des sujets, et c'est pour ça qu'on n'est jamais trop prudent, en fait, lorsqu'on a le sentiment d'avoir découvert quelque chose de particulier, ou lorsqu'on a des doutes, et il faut pousser plus loin les investigations. Parce qu'on est bien sûr seul, hein, et dans un premier temps, et je dirais qu'après, avec le temps, on a tendance à... Enfin, c'est difficile de sortir de sa solitude, de pouvoir trouver véritablement les personnes avec lesquelles partager ce type de sujet. Il faut prendre des précautions avant de s'engager et avant d'aller au combat, quoi. Oui, oui, c'est bien un conseil, c'est bien celui-ci.
Oui, en fait, toute la question que pose l'histoire de Caroline, c'est auprès de qui faut-il lancer l'alerte ? Elle ne se voyait pas alerter les autorités, ce n'était pas dans sa culture, c'est ce qu'elle explique. Mais à quoi bon remonter des informations à la hiérarchie sur des pratiques condamnables au sein de l'entreprise si c'est pour s'apercevoir que la hiérarchie était au courant et qu'elle préfère rester dans le déni ?
Jean-Paul Boucher, l'histoire de Caroline est un peu comparable à la vôtre. Est-ce que les choses sont en train de changer ?
Oui, j'ai quand même le sentiment que, bon, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'institutions aujourd'hui qui sont en capacité, effectivement, d'accueillir. Je crois que c'est l'accueil de cette parole. Enfin, ce qui est dit dans ce témoignage est tout à fait symptomatique, c'est la solitude. Et en plus de cette solitude, lorsqu'on est dans l'entreprise, on a un problème de rapport de force qui est complètement déséquilibré. Donc, il faut le rééquilibrer quelque part en remettant du collectif et pas simplement de l'individu. Parce que si on est uniquement individu contre individu, chef d'entreprise contre, je dirais, un salarié d'entreprise, le rapport est effectivement complètement déséquilibré. Mais donc il faut remettre des procédures d'instruction d'importance.
D'un côté, le cas de Caroline est assez éclairant parce que, donc, d'une part, elle s'est battue seule. Et puis aujourd'hui, bon, ben, peut-être que c'est difficile pour ce genre de personnes de retrouver du travail parce qu'évidemment, ils sont perçus comme des personnes dangereuses. Est-ce que là, on peut agir pour que ces pratiques cessent, pour que les lanceurs d'alerte soient protégés ?
Je crois que la prévention, elle doit se faire effectivement le plus en amont possible. Donc la question de la structure d'accueil, finalement, de cette parole et de cette alerte est une question, enfin, clé, évidemment.
Christian Vélo.
On ne pourra pas mettre des structures d'accueil en place s'il n'y a pas une véritable loi donc, qui encadre l'alerte et l'expertise.
Alors qu'est-ce que vous voulez comme loi ?
Bien, c'est-à-dire qu'actuellement, on assiste à une sorte de saupoudrage de l'alerte dans un certain nombre de lois, comme la loi médicaments suite à l'affaire du Mediator, comme la loi des protections des consommateurs. Et c'est le risque de voir en fait une dispersion de la notion d'alerte par l'introduction à la marge, par l'introduction de cette notion à la marge dans différents textes législatifs. Et donc, il faut mettre en place une véritable haute autorité de l'alerte et de l'expertise, comme on le propose d'ailleurs à Sciences Citoyennes dans un projet de loi, dans une proposition de projet de loi, une sorte de Commission nationale de l'alerte et de l'expertise à l'image de la CNIL, de la Commission nationale d'informatique et liberté, et qui oblige chaque entreprise à pouvoir mettre en place une structure qui puisse permettre à la personne de faire remonter son alerte et d'être ainsi protégée. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, effectivement, et le cas de Caroline le montre bien, on est totalement isolé. Quand on est totalement isolé, on s'en sort pas.
Mais Dorothée Barba.
Que penser de cette idée très anglo-saxonne d'installer dans les entreprises une hotline, un numéro qui permettrait de témoigner anonymement sur des malversations qu'on a constatées ?
Aurore Laluc.
C'est totalement insuffisant, à mon avis, tout simplement parce qu'on le voit dans certains cas, c'est la direction qui met en place la fraude.
C'était le cas
dans
Caroline,
la banque, voilà. C'était le cas de Caroline. Apparemment, ça semblerait être le cas dans les protestes PIP. Dans la banque, AmeriQuest, par exemple, aux États-Unis, Countrywide, Washington Mutual, ce sont les directions de ces entreprises
qui ont
mis en
place. Ça existe dans les entreprises, ça ne sert à rien ?
Ça ne sert pas à grand-chose, apparemment.
L'autre, c'est pour ça
que la loi américaine a mis en place récemment une nouvelle hotline, mais qui ne va pas... au niveau des directions d'entreprise et qui n'est pas en interne, mais qui va vers la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis.
Et d'ailleurs, le Trésor américain a recouvré plus de 17 billions de dollars depuis que cette loi sur le Whistleblowing Act a été créée en 1986. L'autre problème, Aurore Laluc, c'est la question de l'anonymat du whistleblower, du lanceur d'alerte. Au début, on se dit qu'il vaudrait mieux qu'il soit anonyme, et puis on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément la panacée qu'il soit anonyme, ce lanceur d'alerte.
Non, c'est pas forcément la panacée.
Mais expliquez-nous pourquoi.
Alors, je sais pas si je suis la plus compétente autour de la table pour expliquer pourquoi.
Jean-Paul Boucher.
Jean-Paul Boucher est mieux pour moi.
Est-ce que vous êtes compétent ?
Je sais pas si je suis compétent, mais je pense qu'il n'y a pas une réponse unique, ça c'est une certitude, déjà dans les structures d'accueil. Et sur la question précise de l'anonymat, peut être aussi la porte ouverte à toute forme, je dirais, de dénonciation et de délation. Donc on est extrêmement prudent, nous, sur cet anonymat. On parle plutôt, effectivement, de discrétion. Tout le temps de la construction ou de l'instruction, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Là, il est important, effectivement, que les personnes soient soit protégé. Mais l'anonymat n'est pas nécessairement la panacée.
Christian Vélo.
Encore une fois, je crois que le problème de l'anonymat ne se poserait, enfin, anonymat ou pas anonymat, ne se poserait pas s'il y avait un véritable système d'encadrement de l'alerte. C'est-à-dire que s'il y avait, parce que souvent, ceux qui sont contre la mise en place d'une protection des lanceurs d'alerte disent oui, mais on va arriver dans un système où tout le monde va crier au loup. Et donc, il faut effectivement un système de traitement de l'alerte, c'est-à-dire un système d'expertise de l'alerte. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dissocier l'alerte à l'expertise, c'est qu'alerte elle-même doit être expertisée. C'est-à-dire, pour d'abord, dans un système d'expertise idéal, il n'y aurait plus besoin de lanceurs d'alerte. Ça, c'est la première chose. Mais l'alerte elle-même a besoin d'être expertisée de manière contradictoire pour en définir le caractère plausible et pour éviter justement de tomber dans le tout et n'importe quoi. Et puis, quelqu'un peut très bien lancer une alerte de bonne foi et cette alerte peut s'avérer ne pas être fondée. Donc, il faut effectivement qu'il y ait ce système d'encadrement, de traitement de l'alerte et à partir de là, le problème de l'anonymat ne se pose même plus.
Nous sommes en ligne avec Irène Frachon. Bonjour Irène Frachon.
Bonjour.
Alors tout le monde connaît votre nom désormais puisque vous êtes le médecin qui a réussi à faire retirer de la vente le Mediator. Donc le Mediator a été retiré de la vente le 15 novembre 2009. Mais là, dans cette affaire, encore une fois, on se rend compte que l'AFSAPS a failli à son rôle de lanceur d'alerte, n'est-ce pas ?
Alors oui, j'écoutais ce que vous disiez. Finalement,
sur les prothèses PIP.
Pourquoi est-ce que la FSAPS n'a pas suivi les premières alertes et a mis autant d'inertie à réagir ? Peut-être parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec des pratiques qu'elle avait en fait autorisées concernant le Mediator. Exactement ce que disait tout à l'heure une personne disant que mettre un numéro d'alerte au sein d'une entreprise, si les cadres sont au courant de l'alerte mais qu'ils n'ont pas bien réagi, ils vont avoir envie de l'étouffer plutôt que de réagir rapidement sur cette alerte. Je pense que c'était un petit peu le problème de la FSAPS. Et il est vrai qu'on aurait besoin de pouvoir faire appel à une structure totalement indépendante qui n'est pas à se remettre elle-même en question pour traiter l'alerte. Ça, c'est la première chose.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait scinder la FSAPS en deux.
Pas scinder la FSAPS, je crois qu'il ne faut pas. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, qu'il ne faut pas éparpiller des structures aptes à recevoir des alertes, mais bien au contraire, essayer d'avoir quelque chose de type. Alors, ça porte des tas de noms. Hein, on m'a parlé de l'Ombudsman, qui est un nom, je crois, suédois, de lanceur d'alerte. Enfin, de médiateur, hein, ce qu'on appelle ou défenseur des droits en France, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose vers lequel, en toute confiance et de façon très indépendante, une personne qui aurait une inquiétude sur un dysfonctionnement quel qu'il
pourrait
soit,
se retourner.
Puisse se retourner. La deuxième chose que je voulais dire, oui, c'est qu'on ne se sait pas forcément lanceur d'alerte. C'est bien gentil de faire une loi sur les lanceurs d'alerte, mais moi, par exemple, je ne savais absolument pas que ma démarche de dénonciation se rapprochait de cette notion-là. Mm-hmm. Et je pense que je n'aurais pas fait le lien. C'est après, on m'a dit, mais tu es un lanceur d'alerte. C'est même les gens qui ne m'aimaient pas qui m'ont dit ça, en disant, elle se prend pour un lanceur d'alerte. Mm-hmm. Et quand j'ai regardé sur Wikipédia ce qu'était un lanceur d'alerte, je me suis dit, oh là là, j'aurais mieux fait de le savoir avant, parce que ça m'aurait aidé à réfléchir.
Et maintenant que vous le savez, maintenant que le Mediator fait vraiment office de cas d'école, donc on a bien compris que vous pensiez que la FSAPS n'était peut-être pas la situation idéale. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres médicaments qui sont encore potentiellement dangereux et évidemment toujours en vente, Irène Frachon ?
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements que me rapportent maintenant les uns et les autres et qui, en aucun cas, ne se décideraient à le rapporter de façon justement ouverte et libre dans un monde médical qui est extraordinairement lié avec les intérêts de l'industrie pharmaceutique et dans lequel quand même l'omerta est la règle.
Alors lesquels, par exemple ?
Oh, moi, je ne vais pas citer. Alors, je vais vous dire, moi, je suis une spécialiste du Mediator, entre guillemets, et je n'ai pas une compétence dans d'autres domaines. Là, il faudrait, par exemple, redemander à des spécialistes comme la revue Prescrire, qui régulièrement refont le point sur des médicaments qui les préoccupent. Hein. Donc, je ne vais pas être lanceur d'alerte. Je crois qu'il faut revenir là encore sur ce qu'on disait.
Sur la compétence et l'expertise.
Il faut être compétent. Mmh. Mais. Le problème est non résolu actuellement et dans l'affaire du Mediator, finalement, moi j'étais un lanceur d'alerte privilégié parce que j'étais extraordinairement accompagnée par ma direction d'hôpital, par les médecins qui m'entouraient. Donc, je n'avais pas d'inquiétude professionnelle. Ça n'a pas été le cas pour un certain nombre de personnes qui se sont investies dans l'affaire du Mediator, au premier rang desquelles le docteur Georges Chiche. En 1999, il a signalé une valvulopathie grave au Mediator à la SAPS et il a eu deux visites en retour, deux intimidations des laboratoires Servier. C'est tout le problème aussi de la discrétion.
Merci beaucoup Irène Frachon pour votre témoignage. Un témoignage qui peut également rappeler ce que vous vivez, Christian Vélo, puisque ça a été extrêmement difficile pour vous de mettre en garde l'opinion publique contre les OGM.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon institution, c'était pas l'université, parce que je suis comme enseignant-chercheur, bien sûr, rattaché à l'université, mais en tant que chercheur, j'étais à l'époque rattaché à un institut mixte université-CNRS, et c'était cet institut qui m'a reproché de prendre, de l'impliquer dans mes prises de position publique au prétexte que j'apparaissais dans les médias, et notamment la télévision, avec mon affiliation professionnelle, bien sûr, pour justifier de mes compétences à parler du sujet. Et je crois que dans un contexte de la science et de la technologie en général, où on a une déresponsabilisation progressive des gouvernements successifs dans le financement de la recherche publique, et donc une part de plus en plus importante pour la recherche lucrative pilotée par des intérêts industriels à court terme, on assiste à une dérive, effectivement, à une dérive parce que le temps que demande l'évaluation n'est pas compatible avec l'urgence des brevets et des profits. Et donc le problème de l'expertise et de l'alerte est véritablement au centre aujourd'hui de toutes ces problématiques.
Irène Frachon, une réaction très rapide parce que le temps presse.
Oui, non, mais ce que je voulais dire là encore, c'est effectivement, je rebondis sur cette histoire de financement de la recherche dans laquelle la part du privé devient absolument majeure. Moi, je n'ai pas eu de soucis parce que je n'ai pas d'équipe de recherche associée. Ça n'est pas le cas des collègues brestois qui m'ont aidé dans le domaine de la recherche à démontrer le lien entre le Mediator et les valvulopathies. Ils ont rencontré de grands soucis d'expertise pour leur équipe de recherche. Et comme par hasard, les évaluateurs étaient extraordinairement liés à la firme Servier.
Alors, c'est d'ailleurs l'une des questions que pose l'un de nos auditeurs au Standard, et je vais la résumer. Les lanceurs d'alerte ne sont-ils pas également victimes de connivence entre l'État et certaines entreprises privées, Aurore Laluc ?
Oui. Oui, oui, totalement. On l'a vu, donc encore une fois, dans la crise des caisses d'épargne à la fin des années 80, les sénateurs, appelés les Keating Five, du nom d'un des directeurs de caisses d'épargne qui les avait corrompus, étaient totalement liés à ce scandale et ont essayé de faire pression sur un certain nombre de régulateurs, dont Bill Black, pour qu'ils soient licenciés ou pour qu'ils arrêtent leurs investigations. Donc oui.
Jean-Paul Bouchet, donc il y a la question de la connivence, il y a aussi d'autres problèmes, c'est qu'évidemment, on n'aime pas du tout entendre ces pavés tomber dans la mare.
Ah ouais, c'est une évidence, donc d'où la nécessité que ce soit porté effectivement par un collectif. On a beaucoup parlé d'indépendance, je crois qu'il faut parler de contre-pouvoir aussi. Lorsqu'on est effectivement dans l'entreprise, on pourrait penser assez naturellement que les organisations représentatives des salariés puissent aussi exercer, être un relais finalement, j'irais, d'un certain nombre d'alertes professionnelles. Prenons l'exemple d'AZF, sur un risque industriel. Tous ou beaucoup savaient effectivement à un moment donné qu'on était sur le fil du rasoir. Ce sont des expressions qu'on a souvent entendues. On peut légitimement s'interroger. Comment se fait-il effectivement que déjà à l'intérieur de l'entreprise, à travers des personnes mandatées et protégées, Donc il y a une protection quelque part de ces lanceurs d'alerte que sont les représentants des salariés. Ça ne fonctionne pas bien. Donc sans doute faut-il effectivement un cadre réglementaire, c'est une évidence. Mais ne raisonnons pas simplement franco-français. Quand je citais tout à l'heure le cas des collègues africains, c'est évident que là, il faut le support peut-être d'ONG. Nous, on a beaucoup travaillé avec Transparency International sur ces questions. Donc la question de la protection du lanceur d'alerte est une question internationale.
Et puis le secours d'autres collectifs. Donc je rappelle le CRIGEN pour vous, Christian.
Fondation Sciences Citoyennes, qui travaille beaucoup sur ces questions d'alerte et d'expertise.
Aurore Laluc, donc, on a compris que l'Institut Veblen travaillait également dans ce domaine-là. Merci d'avoir été là tous les quatre pour nous expliquer ce qu'étaient les lanceurs d'alerte et pour essayer de populariser cette expression peu connue en France, une expression complexe, complexe comme ce que chante Joey Starr.
N'étant pas représentés comme des moteurs de progrès ni de culture, les quartiers entretiennent un complexe. C'est le complexe du banlieusard. C'est le complexe du banlieusard. C'est le complexe du banlieusard. Travailler plus, se donner plus pour gagner plus. J'ai le nouveau lubrifiant au gravier pour nos années. Tous les salariés le savent, ce ne sera point un lit de rose.
crise ou pas crise, il n'y aura plus jamais d'osmose. La France s'est fait monter la tête et nos jeunes avec. Élevés au mépris, à la culture de l'échec. Le conflit est latent, chaque décennie c'est né. Repliés sur nous-mêmes, chacun fait sa guerre de sa fenêtre. J'ai pas la langue molle, parce que cherche pas l'esquive. L'avenir d'un pays dépend d'une dynamique collective. C'est bien parce qu'on y croit qu'un système reste debout. Ce qui m'amène à me demander à qui on bourre le mou. Tout le monde sait que l'équité n'est plus qu'un fait de littérature. On nous mène à l'abattoir, on nous mène à la rupture. Tout ce système pue à force de situations corrompues auxquelles l'État s'attelle et de fait nous tue. On dirait du placard. Avec les matons, les collards, toutes sortes de briscards. Comme dans une planque 5 étoiles, j'ai le respect des bricards. Mais je veux mes ailes à fleurir, façon Icar. Écroupant 7-4-0, pas de peine à deux numéros. Mais c'est long, c'est long, comme pour tous mes négros. Mais je suis en Europe, y'a pire sur le même toit. Je fais pas figure d'exemple, j'ai pas de choix, je prends sur moi. C'est pas des lyrics à la con, c'est pas du jeu de rognon. Celle gosse, c'était notre façon d'attirer l'attention. Attirer l'attention sur notre subversion du refus de l'interdiction. Surtout par conviction, mais la génération actuelle vit sur un complexe. Montre le majeur gratuitement plutôt que l'index. Ils se questionnent moins sur l'autre et encore moins sur eux. Et ce complexe se transmettra, me disent mes yeux.
C'est le complexe du banlieusard. C'est le complexe du banlieusard.
C'est le complexe du banlieusard. 10h48 sur France Inter, service public, seconde partie de l'émission.
La séquence du consommateur.
Et Marie Montuire, notre femme d'intérieur, a une idée pour résoudre la crise immobilière, inciter les gens à occuper moins de place. Bonjour Marie.
Bonjour Guillaume.
Votre proposition, occuper moins d'espace, les Anglais en ont fait une expression.
Improve, don't move.
Oh, ouais, j'ai bien dit, je sais.
En français, améliorer, ne déménagez pas. Plutôt que de se serrer la ceinture pour quelques mètres carrés supplémentaires, on essaie de faire mieux avec ce qu'on a. Aujourd'hui, on va non seulement voir comment gagner de l'espace, mais aussi une impression d'espace.
Une impression d'espace, mais ça ressemble à une promesse électorale, ça. On va la tenir alors, Marie ?
Eh bien, absolument. Après 5 déménagements et 28 reportages sur le sujet dans ma longue carrière, je suis en mesure d'affirmer qu'il n'y a pas 36 solutions et surtout pas une aussi efficace que les rangements sur mesure. Remontons le fil de l'histoire. On s'installe dans un petit appartement, un studio, alors on achète des petits meubles de rangement qui bien vite débordent et nous poussent à acheter encore d'autres petits meubles soi-disant gains de place. Résultat catastrophique, on ne circule plus dans l'appartement et il a toujours l'air bordélique. C'est là que l'agencement de rangement sur mesure prend tout son sens. Surtout si le petit espace est, comme souvent, biscornu. Car c'est le seul moyen pour exploiter les moindres alcôves, renfoncements, recoins et toute la hauteur sous plafond. Là, on regroupe tout, on range tout ce qui dépasse. Si, comme moi, on trouve les placards un peu moches, on les fait disparaître. On les peint de la couleur des murs et on évite les poignées apparentes. Le mieux étant le système push and open, encore de l'anglais.
Décidément.
Traduction, j'appuie, ça s'ouvre et ça coûte aussi plus cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas fait avant, parce qu'un devis de menuisier, ça fout toujours la trouille. C'est vite fait un chiffre à 3-0, même avec des étagères en médium. Mais quand vous comparez au coût d'un déménagement, le sur-mesure, c'est tout bénef. La petite ruse, on achète les caissons de rangement et les étagères, tout ce qui ne se voit pas en kit, dans la grande distribution, bien moins cher. Et on demande au menuisier d'intervenir seulement pour les ajuster à notre espace et faire de jolies portes. Le bazar est rangé, on va pouvoir s'amuser.
Et c'est là qu'intervient la mystérieuse impression d'espace, Marie.
Tantant, bizarrement, on va diviser cet espace, mais virtuellement, en rassemblant les fonctions. Manger, travailler, glander. l'esprit. Exemple, plutôt que de caser son ordinateur au milieu des assiettes sur la table des repas, on crée un coin bureau, même petit, mais surtout prêt à l'emploi, avec la bonne assise et la bonne lumière. L'idée, c'est de ne pas avoir à tout pousser, déménager les meubles chaque fois que l'on change d'activité. Important, l'éclairage. C'est pas parce qu'on a 15 mètres carrés qu'une ampoule au plafond, ça suffit. Au contraire, on multiplie les appliques, les lampadaires, les liseuses qui n'ont pas besoin d'être sur un meuble, question de place. La lumière dédiée à un espace va le matérialiser et le rendre beaucoup plus agréable à vivre. C'est super de bien voir son assiette quand on mange, non ? Trois petits trucs pour terminer. Le blanc sur les murs, ça ne fait pas forcément plus grand. En revanche, la couleur, c'est sûrement plus chaleureux. Le miroir, c'est miraculeux. Sur une entrée trop étroite, dans une salle de bain, on le joue en version XL. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des meubles de Lilliputien. Au contraire, jouer le changement d'échelle avec un lampadaire surdimensionné, une photo extra large au mur, c'est très efficace sur l'impression d'espace.
Merci Marie, allez 2012, Odyssée de l'espace, à la semaine prochaine.
France Inter, service public.
Et l'ami Pochon a quitté Paris pour le pays de Giono.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue à Beaumugne, dans les Hautes-Alpes. Petit village perdu au milieu des montagnes. Et là, j'aperçois un homme tout seul qui travaille. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je m'amuse.
Ah, vous aussi ?
J'aimerais bien savoir qui vous êtes d'abord. Moi, j'aime bien être présenté.
Regardez, voilà. France Inter, moi, c'est marqué sur le micro.
Après.
Vous voulez mon nom ?
Non.
Bon, je vais vous le donner, je m'appelle...
Je vous écoute tous les matins.
C'est vrai ?
Ben, au moins ça, oui.
France Inter ?
Oui.
Ah bah peut-être, mais vous m'écoutez, moi je passe à 11h-10, un temps de Pochon.
Ah, un temps de Pochon, ah ben là, c'est pas le cas. Hein.
Non, c'est pas le cas, voilà. Alors ouais. Maintenant qu'on est présenté, et vous c'est comment votre nom ?
Moi c'est Un de Beaumugne.
Un de Beaumugne ?
Eh oui, vous connaissez le roman de Monsieur Giono ?
Non.
Il s'appelle Un de Beaumugne, et voilà, moi je suis Un de Beaumugne.
Il raconte quoi, Un de Beaumugne ?
Oh, bah c'est des histoires de... C'était entre les deux guerres, hein, c'est Giono, c'est de cette époque-là,
ouais.
Le retour à la terre et tout ça. Et Anne Beaumune, c'était un paysan de ce village qui était parti dans le Midi et qui raconte toute son histoire.
Mais vous êtes parti à un moment ?
Moi, non, je suis arrivé il y a 45 ans et maintenant je suis à la retraite. Voilà. J'ai des jeunes qui ont pris la suite de mes activités agricoles et voilà, c'est tout.
Et qu'est-ce qui vous a amené à Beaumune ?
Eh bien, c'était un village abandonné. Alors, ça me séduisait parce qu'il y avait un potentiel. Il y avait une plaine avec des terres cultivables. Il y avait des maisons complètement en ruine. Et voilà. Et en 69, la SAFER, j'ai mis la SAFER dessus. C'est une société d'aménagement foncier agricole. Et voilà, ils ont racheté et ils me l'ont rétrocédé.
Vous avez repris tout le village et vous avez donné renaissance au village ?
Le hameau, oui. Le hameau, c'est un tas de cailloux, hein. On peut faire voir des photos si vous voulez.
Ça doit être très gratifiant de se dire que vous êtes arrivé quelque part où il n'y avait plus de vie et puis vous avez remis la vie parce que j'entends un peu, il y a des gens qui travaillent là-haut, il y a des...
Ah ben maintenant il y a de l'activité, oui, il y a une fromagerie avec des vaches qui produisent du lait, qui font du fromage. Et bon, c'est ce qu'on faisait nous aussi avant de prendre la retraite avec ma femme et voilà, quoi, c'est...
Mais vous faisiez quoi avant d'arriver à Beaumugne ?
Ah ben j'ai fait une formation agricole et j'étais fils de paysan. Mon père avait une propriété qu'a repris mon frère plus jeune, juste de l'autre côté de la vallée là. Et voilà.
Et aujourd'hui, il y a combien d'habitants à Beaumugne ?
Alors là-haut, 3 ou 4. Nous, on est un couple avec ma femme et puis il y a un fils qui est là assez souvent. Il y a les jeunes qui ont repris là, qui sont dans cette maison. Ils sont 4 aussi avec 2 petits-enfants. Et puis en bas, il y a une femme retraitée, puis des résidents secondaires.
Vous êtes quoi, une quinzaine alors ?
Voilà, une quinzaine au hameau. Et en 1969, il n'y avait plus personne. Zéro, zéro.
Oh ouais. C'est super. Aujourd'hui, on entend toujours des histoires, des villages qui se vident, où il n'y a plus personne. Et vous, c'est l'histoire inverse, quoi.
Voilà, c'est un peu ça. Et on a essayé de faire revivre ça, oui. Mais...
Et ça a été facile ?
Oh que non. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'aide, hein, déjà, pour s'installer. Et puis ensuite, les revenus agricoles, hein, on sait ce que c'est. Bon, s'il n'y a pas les aides... Alors, petit à petit, les aides se sont instaurées. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais et puis, les jeunes qui ont repris, là, c'est des jeunes qui ne sont pas de ma famille. Hein, c'est des jeunes qui ont repris. On leur a fait un fermage et voilà, c'est... Ouais. En montant, vous avez vu un bâtiment qui se construit.
Ah oui, oui,
là.
Un beau bâtiment.
Voilà,
bois,
ils sont en train d'aménager leur bâtiment, là, oui, ah, parce que... Disons qu'ils démarrent beaucoup plus facilement que nous, quoi, parce que nous, à l'époque, on n'avait rien, quoi. C'était juste l'emprunt au Crédit Agricole et puis c'est tout, hein, c'était... Il a fallu se débrouiller tout seul.
Et donc, en plus, ça se développe, quoi. Non seulement vous avez retapé, mais il y a des maisons qui se construisent.
Ben oui, oui, parce qu'eux vont construire leur maison, oui.
Et c'est quoi le charme de ce pays? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays?
Bonne question. Eh bien, quand j'étais jeune, bon, j'avais fait une école d'agriculture, forcément, je me destinais à ça, puis c'était ma passion, hein, le travail de la terre, les animaux et tout ça. Et puis, dans ce petit coin-là, un petit... Voilà, ça ne va pas plus loin, c'est un cul-de-sac, là, on ne peut pas aller plus loin, donc... voilà, ça me plaisait parce qu'il y avait un potentiel agricole, il y avait possibilité de faire plein de choses. Et puis on a retapé les maisons et puis voilà quoi ça... Mais le fond du truc, c'est quand même de partir de rien et d'arriver à quelque chose, quoi. Je pense, le fin fond du problème, il est là. Et voilà, c'était séduisant, quoi, parce qu'il y avait tout à faire, quoi. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain. Pour la petite anecdote, on avait dans la vallée, là, juste à peu près en face, on avait une maisonnette de la SNCF, un passage à niveau, ouais. Et c'était la maison Pochon. Ah, oui. Parce que les derniers habitants de cette maisonnette s'appelaient comme ça. Et, ça, et c'est resté. C'est hein, quand on parle de l'endroit, c'est la maisonnette Pochon.
Voilà. Ah, bah, je suis bien content de l'apprendre.
Donc il y avait une famille Pochon dans le coin et voilà, qui ont habité là, mais ça remonte à 50 ans, hein, ouais. Largement. Ouais.
Et aujourd'hui, elle est abandonnée?
Ah bah c'est une maisonnette de la SNCF qui a été rasée. Hein. C'était
ah oui.
La petite maisonnette, vous savez, de passage à niveau.
Oui, je vois bien. Ouais. Il y a toujours la voie ferrée.
Mais il y a toujours la voie ferrée et le chemin qui monte en face. Ouais.
Et un temps de pochon a été réalisé, comme chaque jour, par Véronique Barnet. Service public a été fabriqué par l'équipe 2012. Paul Aveline, Irène Ménahem, Mélodie Piel avec Stéphanie Texier à la réalisation. La programmation musicale était signée Jean-Michel Montu. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Demain, dans Service public, nous profiterons des soldes qui approchent pour évoquer toutes ces stratégies qui visent à manipuler le consommateur. Et dans quelques instants, juste après le flash, vous retrouverez Isabelle Giordano et ses affranchis.